Vous écoutez RTL.
Il est 15h03, vous êtes sur RTL, on est fait pour s'entendre bien sûr avec Flavie Flamand. Bonjour Flavie.
Bonjour Marie Guerrier, on va passer une heure ensemble. Je vous rendrai l'antenne à 16h promis pour un prochain point sur l'actu.
A tout à l'heure.
A tout à l'heure, merci. Elle épuise, elle énerve, elle déprime.
Je prends ta douleur, la virée de la récré.
On soulage nos douleurs tout de suite en direct sur RTL.
15h, 16h. Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est fou comme les réseaux sociaux de cette émission sont des territoires de partage. En vous suivant chaque jour sur Twitter, sur Instagram ou encore sur Facebook, eh bien on voit des liens qui se créent, on voit des amitiés qui naissent, on voit des désaccords, de l'humour très souvent, de la solidarité quand l'un de vous a besoin d'aide. C'est joli à regarder en tous les cas et je vous en remercie. Quant aux autres, à tous ceux qui n'ont pas encore succombé à cette tentation des réseaux sociaux, de cette communauté autour de cette émission, eh bien venez voir à quoi ça ressemble. Vous allez voir, c'est vraiment chouette. Voilà, soyez les bienvenus sur RTL. Nous sommes ensemble, vous le savez, comme chaque jour, en direct jusqu'à 16h. Et aujourd'hui, on vous propose une émission pleine de conseils. Alors n'hésitez pas à les demander directement sur cette antenne en appelant tout simplement le 3210. Dos, articulations, fibromyalgie, maux de tête, un Français sur trois souffre de douleurs chroniques. Elles finissent par affecter le moral, par affecter la vie sociale, personnelle, professionnelle de ceux qu'elles touchent. Alors pourquoi de plus en plus de personnes sont-elles concernées par la douleur chronique? Comment les expliquer ces douleurs? Est-il possible de les soulager? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Annie Schwab, bonjour.
Bonjour Flavie.
Soyez la bienvenue Annie, vous êtes directrice de la rédaction du magazine Maxi, amie et partenaire de cette émission, actuellement en kiosque, qui s'intéresse à une jeune femme qui souffre de fibromyalgie. Est-ce que vous saviez, avant de vous pencher sur cette question, ce qu'était la fibromyalgie?
Alors, sans vouloir jouer ma prétentieuse, oui, parce que il se
Agnès
trouve...
Lapette.
Que dans la rédaction, j'ai une personne qui souffre de fibromyalgie. Et donc, c'est vrai que c'est un terme qui peut paraître un peu barbare. Mais quand on le décrit, c'est-à-dire que ce sont des douleurs diffuses dans tout le corps, hein, des douleurs associées à une grande fatigue, des troubles du sommeil, un état anxieux. Et là, on peut se dire qu'on a tous la fibromyalgie. Or, pas du tout. C'est vraiment un diagnostic, mais qui est encore extrêmement mal perçue par les médecins, c'est-à-dire qu'en fait, elle est mal comprise. C'est vrai que, par exemple, vous voyez, le matin, on se réveille, on a mal partout, on se dit bon, non. Donc, c'est un état qui dure au moins 3 mois et qui peut aussi révéler des états de stress. Mais c'est encore quelque chose qui n'est pas bien compris par tous les médecins.
Voilà, et qui fait peur aussi à tout le monde. C'est un mot qui fait peur et des symptômes qu'on a le sentiment parfois de ressentir.
Voilà, et nous, en fait, dans Maxi, on a choisi ce témoignage parce qu'en fait, Evelyne, elle a mis 10 ans à s'en sortir et à en guérir, mais elle en a guéri.
Voilà, et elle en a souffert. L'émission de ce jour sur la douleur. À vos côtés, Catherine Guillemont. Bonjour Catherine Guillemont.
Bonjour Flavie.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychologue, psychothérapeute. Vous avez travaillé, vous, pendant 20 ans au centre du traitement de la douleur à l'hôpital Bichat. Vous êtes auteur d'un ouvrage « Ma douleur, comment l'apprivoiser » chez Odile Jacob, qu'on conseille à ceux qui nous écoutent car il est bourré de conseils. Et puis vraiment, il permet en tout cas d'appréhender directement la douleur, de lui faire face ou de vivre avec.
Eh bien, selon les cas, c'est l'un ou l'autre. Parfois, la douleur cesse et on en est très heureux. Et puis, dans d'autres cas, eh bien, ce qu'on essaye de faire, c'est de limiter l'influence de la douleur dans la vie et de diminuer son intensité, son impact, son retentissement.
Voilà. Revenons, si vous le voulez bien, juste un instant sur la fibromyalgie, même si, je le dis à nos auditeurs, on va ouvrir sur toutes les douleurs possibles. Et d'ailleurs, on le voit bien au regard des messages que l'on reçoit. La fibromyalgie, donc, comme le disait il y a un instant Annie Gomez, c'est une maladie qui est diagnostiquée. Est-ce que c'est une souffrance invisible? Est-ce que c'est difficile pour ceux qui en souffrent de pouvoir prouver ou justifier leur douleur?
La douleur dans la fibromyalgie, comme dans les autres douleurs chroniques, elle est souvent mal comprise par les gens qui ne la ressentent pas, et donc par l'entourage immédiat ou l'entourage plus large. Et c'est vrai que pour la fibromyalgie, ce que je dirais, c'est que parfois, les patients arrivent et imaginent, enfin, on leur en a parlé, et le diagnostic n'est pas toujours confirmé, parce qu'il y a 18 points au niveau des épaules, de la nuque, des fesses, des genoux, des coudes. Et parfois, en fait, le diagnostic n'est pas confirmé par les rhumatologues. C'est une symptomatologie qui est donc souvent méconnue. mal comprise et complexe.
Comme vous le disiez il y a un instant, en fait, la douleur ne se voit pas en réalité, sauf quand on a un truc de cassé. Sinon, elle ne se voit pas. C'est une forme de handicap invisible.
Oui, c'est un handicap invisible et c'est important parce que. Alors, il faut associer l'entourage à la prise en charge, pas en pesant sur l'entourage. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de demander tout à l'entourage, puisque en fait, l'idée, c'est que le patient garde une part très active dans sa prise en charge personnelle, et c'est ce qu'essayent de faire les médecins, c'est que ça soit un partenariat. Mais c'est important qu'il y ait une information qui soit donnée à l'entourage, et on peut proposer, en fait, quand l'entourage n'arrive pas bien à comprendre, d'assister à une consultation pour que des informations soient données.
Voilà, pour mesurer, en tout cas, cette douleur qui, visiblement, vous touche hein, les uns et les autres. Vous nous avez laissé des messages. Dans un instant, on va répondre aux questions sur la migraine, sur des douleurs chroniques à l'intestin, sur des douleurs à la poitrine, sur des migraines ophtalmiques. C'est l'horreur, ça. Sur des vertiges, la maladie de Crohn, la fibromyalgie qui va revenir, évidemment. Et puis, toutes ces façons, peut-être aussi, de la soulager, cette douleur. De mieux vivre avec, de mieux l'apprivoiser, comme le titre de l'ouvrage de Catherine Guillemont. On se retrouve, Annie Schwab et Catherine, dans un instant, sur l'antenne d'RTL. N'hésitez pas, 3210 pour toutes vos questions.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
RTL.
Aujourd'hui, on va essayer de mettre KO la douleur. Et si on n'y parvient pas, eh bien, on va essayer aussi de vous livrer des conseils pour mieux vivre avec cette douleur, pour peut-être mieux l'apprivoiser. En compagnie de nos invités, Annie Schwab, qui est directrice de la rédaction du magazine Maxi, et Catherine Guillemont, qui est une spécialiste de la douleur, puisqu'elle s'y est sérieusement penchée pendant 20 ans au centre du traitement de la douleur à l'hôpital Bichat. Vous êtes psychologue et psychothérapeute aussi, Catherine Guillemont. Ça veut dire que la douleur, ça se soigne aussi dans la tête?
Ça se soigne aussi par des méthodes. Je ne sais pas si c'est dans la tête, mais oui, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est à la fois des méthodes. On agit sur les émotions, on essaye de travailler avec les émotions, avec les pensées qui sont des pensées anxiogènes et qui contribuent à majorer la douleur. Et puis, on travaille aussi avec beaucoup de techniques de relaxation, de méthodes corporelles et d'hypnose qui permettent en fait de se détendre et puis aussi d'avoir accès à des sensations positives, à des émotions positives.
Oui, c'est vrai qu'on le disait il y a un instant, Annie Schwab, hein, c'est-à-dire que quand on commence à être en circuit fermé avec sa douleur et qu'on n'est pas distrait quelque part ou qu'on n'est pas pris en charge différemment,
et puis,
on
ne
fait que
la
majorer.
On a peur d'avoir un nouveau mal.
Des messages qui nous arrivent sur les réseaux sociaux, des messages au sujet des migraines. On a Véronique qui nous explique qu'elle souffre de migraines. C'est insupportable, surtout quand ça arrive au boulot. Rien ne me soulage à part dormir. Alors en même temps, elle parvient à dormir. Moi, j'en ai connu qui avait du mal à s'endormir à cause de ça. On a Marie aussi, la chipie, qui nous dit « Moi aussi, je souffre de migraines régulièrement. Chaleur, excès de chocolat, ça c'est la loose, cycle hormonal, fatigue, stress. Bref, la migraine ne m'épargne pas. » Et si vous le voulez bien, nous allons accueillir Mimi sur cette antenne. Bonjour Mimi, je suis contente de vous entendre.
Bonjour, moi aussi, ça
va. Ah, c'est super. Ben oui, dites donc. Et puis on se suit régulièrement sur les réseaux sociaux, ça fait plaisir.
Oui, très.
Mais alors, on en apprend tous les uns sur les autres. Qu'est-ce qui vous arrive à vous?
En fait, elles reviennent tous les mois.
Oui, on parle de migraines.
Oui, les migraines.
Parce que les filles, il y a plein de trucs qui nous reviennent tous les mois. Vous voyez ce que
oui,
je veux
voilà,
dire
bah, en fait, c'est dû au cycle. C'est des migraines qui sont dues au cycle.
D'accord.
En partie.
Ouais.
Et donc, on a rendez-vous, malheureusement, tous les mois.
Vous avez rendez-vous avec qui?
Avec mes fameuses migraines.
D'accord.
Tous les symptômes
d'accord.
Que ça englobe.
D'accord. Alors, ces migraines, vous les avez depuis toujours, Mimi?
Pas du tout. Non, elles sont arrivées avec la quarantaine.
D'accord. Est-ce que vous avez cherché, j'imagine, à travers des rendez-vous avec des médecins, des spécialistes, à en connaître réellement l'origine? En tout cas, pourquoi sont-elles survenues?
C'est suite à une chute des œstrogènes, a priori.
Ouais.
Mais on va dire que ça pourrait correspondre aussi à une rupture, en fait, une rupture familiale, et du coup, il y avait des répercussions.
Ouais.
Donc, c'est en même temps hormonal et à la fois un peu psy.
Voilà, c'est venu vous cogner dans la tête tout ça.
Voilà, exactement.
Mimi, comment est-ce que vous pourriez nous décrire ces migraines? Comment est-ce que vous les vivez? C'est difficile, vous savez, quand un enfant souffre de quelque chose, on lui dit, explique-nous comment t'as mal. Vous
Alors,
pouvez le
fait,
faire,
oui.
vous
Voilà, c'est on va localiser la douleur soit à gauche, soit à droite. Mmh. Parce que c'est vraiment la migraine, c'est une douleur diffuse et constante qui tape un peu comme on a l'impression d'avoir le cœur dans le cerveau, parce que c'est c'est voilà, c'est des douleurs qui lancent, et puis c'est pour ainsi dire impossible d'avoir une lumière vive ou d'entendre des bruits aigus, et dans les cas les pires, on ne peut pas manger.
Ça dure combien de temps pour vous ?
Alors, au mieux une journée, et au pire 3 jours.
Comment ça se passe ? Comment est-ce que vous gérez ça ? Donc vous êtes dans une forme d'obscurité, c'est handicapant dans votre vie, hein. Donc ça veut dire que vous devez vous adapter à vos migraines ?
Plutôt, oui, parce que bon, là il fait chaud, donc c'est pareil, c'est pas forcément évident, puisque le flux sanguin augmente avec la chaleur. Donc essayer de rester à l'ombre, de boire beaucoup, puisque le cerveau a besoin d'eau, en particulier lors des épisodes de migraines. Donc toujours bien s'hydrater. Moi je favorise tout ce qui est naturel, donc c'est vrai que j'ai pas voulu des triptans. J'avais pas essayé, donc voilà, on m'en avait prescrit, j'ai pas voulu, parce que pour moi c'est vraiment le dernier recours, et je trouve que c'est ça fait partie de la classe de médicaments qui pour moi sont trop lourdes.
En même temps, ce sont des médicaments dont on vous dit qu'ils vous soulageraient ?
Pas forcément, parce qu'on m'a prévenu des effets indésirables, et je trouve que les effets indésirables correspondent tellement à une partie de ce qu'on ressent quand on a cette fameuse migraine. D'accord. Que voilà, c'est pour ça que je me suis tournée vers les oméga 3, vers le magnésium. Enfin voilà, et j'ai essayé l'homéopathie, ça n'a pas forcément donné grand chose.
D'accord, ok.
Et j'ai préféré continuer à chercher.
Ça fait combien de temps que vous avez mal comme ça, Mimi ?
4 ans.
Ah ouais, vous avez de la résistance quand même. Hein. Vous restez avec nous ?
Oui.
Hein ? Et puis dans un instant, on va demander à Catherine Guillemont de rebondir sur les triptans. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit, parce que je pense que ça intéresse aussi certains de nos auditeurs. Et puis voir comment on peut vivre avec cette douleur de la migraine. Et peut-être éventuellement aussi pouvoir y répondre. Ne bougez pas Mimi, nous non plus. Alors on se retrouve tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h. Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Il y a Cédric qui a des douleurs à l'intestin, Valérie qui a des douleurs à la poitrine, Emma qui a des douleurs ophtalmiques. On a mal partout, mais on a décidé de se soulager aujourd'hui sur l'antenne d'RTL grâce au conseil de Catherine Guillemont, sous l'oreille bienveillante, intéressée.
Très
aussi,
intéressée. Hein,
Dani Schwab, directrice de la rédaction du magazine Maxi, qui propose dans son nouveau numéro en kiosque un témoignage justement sur la fibromyalgie. Mimi est en ligne avec nous. Mimi, vous nous avez expliqué il y a un instant que vous souffrez de migraines mensuelles, hein, qui correspondent en fait à vos périodes de menstruation. Question, avant qu'on aille vers Catherine Guillemont et revenir sur l'idée du traitement. Vous avez consulté, vous, un gynéco et un neurologue pour essayer de comprendre d'où tout ça pouvait venir et comment on pouvait y répondre ?
Alors oui, elle m'a dit que ça venait d'un manque d'œstrogène en fait.
Donc ça, c'est votre gynéco ?
Voilà.
D'accord. Et vous avez consulté un neurologue ?
Pas. Non.
D'accord. Parce que ça, c'est déjà la consultation, c'est déjà un premier conseil que vous donnez, Catherine Guillemont.
Oui, absolument. En fait, les neurologues, après, on ne va pas vous contraindre à prendre un traitement si vous ne le souhaitez pas. Mais bon, ce qu'on sait après, c'est au cas par cas. Il n'y a pas de cas généraux. Mais ce qu'on sait, c'est que l'association en fait d'un traitement médicamenteux, alors ça peut être les triptans, ça peut être aussi un autre traitement, et de techniques thérapeutiques du style technique corporelle, que ce soit la relaxation, l'hypnose, la méditation, parce qu'il y a souvent une composante de stress et d'anxiété dans les facteurs déclenchants de ces migraines, même s'il y a un facteur aussi génétique et hormonodépendant, comme vous l'avez souligné. Mais donc, ce qu'on a constaté, c'est que dans un bon nombre de cas, l'association de ces deux thérapeutiques, médicamenteuses et corporelles ou psychologiques, sont celles qui favorisent les meilleurs résultats.
Voilà, qui en tout cas permettent d'apporter une réponse. C'est quoi votre résistance par rapport au triptan en fait, Mimi ? C'est vraiment cette idée des effets indésirables, ou est-ce que vous êtes de ceux qui n'aiment pas prendre des médocs ?
Alors voilà, on va dire que c'est un mélange des deux. Je suis pas forcément branchée à l'allopathie, sauf en cas vraiment d'urgence absolue. Et oui, je me suis penchée sur des témoignages et puis surtout sur les effets indésirables que j'ai lus. C'est quand même un médicament.
Mais vous n'avez pas essayé, Mimi ?
Ah non.
D'accord,
non.
Ok. Non, mais vous n'êtes même pas allé jusqu'à... Enfin, vous auriez pu essayer puis vous dire, moi, ça ne me convient pas du tout.
Non, parce que voilà, je n'ai pas envie de tomber dans l'engrenage, de me dire, il y a que ça qui me soulage. Voilà.
D'accord, ok. Cette idée de l'engrenage et de la dépendance, quelque part, aux médicaments, que l'on retrouve dans beaucoup de témoignages, Catherine Guillemot.
Je crois que, bon, après, ça dépend. mais je pense qu'il y a une chose très importante, c'est l'alliance thérapeutique et la relation de confiance qu'on peut avoir avec les médecins de la douleur, et en particulier avec les neurologues, parce que ça, c'est fondamental au niveau de la bonne collaboration et des effets thérapeutiques aussi. Un neurologue ne va jamais vous forcer ni vous contraindre. Il va vous proposer plusieurs traitements, si les triptans ou autre chose. Il y a d'autres traitements médicamenteux qui peuvent aussi avoir des effets sur les migraines. Et ça, je crois que c'est tout à fait important, cette relation de confiance, pour être dans un partenariat, dans une attitude active face à la prise en charge de ses symptômes et de sa pathologie.
Sur les réseaux sociaux, on nous parle de séances d'acupuncture, on nous parle donc de médecines alternatives, douces. Ça, vous les conseillez. En revanche, ça, je pense que Mimi, vous n'êtes pas contre ce
ah
genre
non,
de
ça
plan.
Non. J'ai déjà essayé la mésothérapie, ça m'avait donné de bons résultats.
Oui, donc ouais. Ça permet effectivement de se détendre. Ça, c'est quelque chose voilà. qui permet d'apprivoiser la douleur, Catherine Guillemot.
Oui, alors il y a tout un panel ou une panoplie de stratégies thérapeutiques ou d'outils thérapeutiques qu'on peut utiliser en dehors des traitements médicamenteux. Mais bon, comme je l'ai déjà dit, souvent l'idée c'est de les associer et de ne pas mettre de côté le traitement médicamenteux. Alors ça peut être des choses de l'hygiène de vie, c'est-à-dire une bonne hygiène alimentaire, faire attention à son sommeil, avoir aussi prendre soin de soi. Et tous les petits bonheurs de la vie quotidienne, de tous les petits plaisirs, et favoriser chaque jour des choses qui donnent de la joie, qui donnent du bonheur. Et puis après, dans les stratégies un peu plus entre guillemets musclées, il y a les ces thérapies corporelles, que ça soit l'hypnose, la relaxation, la méditation, et puis aussi une prise en charge sur le plan de la gestion des émotions. C'est-à-dire travailler sur les facteurs déclenchants qui favorisent souvent la migraine. Elle arrive, bon.
Oui, donc là, vous nous parliez d'un choc, d'une rupture, d'un choc psychologique. Voilà, ce que vous nous expliquez, c'est que parfois, il faut aller chercher là où ça fait mal.
Il faut aller chercher, les choses qui favorisent le stress.
Mimi, ça, c'était les conseils de Catherine Guillemot. Alors là, maintenant, c'est Annie Schwab qui va vous donner des conseils. Donc, c'est le printemps, il commence à faire chaud, va vous conseiller les apéros avec modération, les potes, la joie de vivre. C'est ça un peu.
Flavie, ne me faites pas passer pour une alcoolique.
Non, c'était pas ça. Mais c'est la joie de vivre, quoi.
Oui. Voilà. Non, mais Mimi, moi, je comprends. Et puis, je trouve que votre ouverture vers tout ce qui est médecine douce, médecine alternative est formidable.
Ouais,
et que, enfin, pour moi, l'important, c'est que vous ne vous laissiez pas enfermer dans votre douleur, qui en plus, c'est quand même mensuel. Donc, c'est quand même un truc qui est super lourd.
Bah, déjà, quand les radadas reviennent tous les mois, c'est un peu compliqué.
Voilà.
En plus, il y en a deux.
Voilà. Et donc, du coup, c'est peut-être explorer effectivement un maximum de pistes parce qu'il y en a. Il y a même, moi, j'ai même trouvé, en fait, une sorte de pharmacopée chinoise qui s'appelle la poudre de la lip promenade. Alors franchement, je l'ai pas essayé, mais
je ne sais pas. C'est la coucouille de taureau, mais
voilà. Mais je pense que vous pouvez exploiter plein de choses en médecine naturelle douce et multiplier les expériences, parce qu'en général, il n'y a pas vraiment d'effet indésirable. Mais
oui, voilà, c'est ce que j'aime. Oui.
Voilà, et surtout ne pas rester seule avec votre douleur, parce que ça, c'est infernal.
Et non, parce qu'elle est avec nous tous les jours déjà entre 15h et 16h, Mimi, donc elle est pas seule.
Et pas que,
évidemment,
très
et heureusement.
Thérapie, très
et
bonne thérapie.
Heureusement.
Oui.
Prenez soin de vous, Mimi, on vous embrasse.
Oui, des gros bisous à toute l'équipe et merci encore beaucoup.
Et à bientôt sur les réseaux.
À bientôt,
salut,
merci
Mimi,
beaucoup.
Au revoir.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Pour clore le chapitre des migraines, Nadine qui nous écrit que les triptans vous changent la vie. Voilà, donc chacun a sa philosophie sur la question, mais en tout cas, c'est une réalité pour elle. Et Angelina qui nous explique qu'elle souffre de migraines depuis son adolescence. Elle a hérité ça de son père qui passait ses week-ends au lit. L'occasion pour nous de dire effectivement qu'on a souvent la migraine en héritage, en réalité.
Voilà, il y a une dimension.
C'est pas un super cadeau, mais c'est un cadeau quand même. Très bien. Alors, aujourd'hui, on s'intéresse aux douleurs chroniques. Comment est-ce qu'elles s'installent, les douleurs chroniques, en fait, Catherine Guillemot?
Elles s'installent... Il n'y a pas de format type.
Ouais.
En fait, l'idée, c'est que souvent, en fait, c'est post-opératoire, c'est post-traumatique, ou c'est des douleurs qui progressivement s'installent. On définit une douleur chronique comme une douleur qui se prolonge au-delà de 3 mois
c'est ça.
Et qui est résistante au traitement.
D'accord. À tous les traitements
voilà.
que l'on trouve, nous,
et qu'on a pu
d'où l'intérêt d'aller effectivement consulter des spécialistes qui peuvent nous mettre sur une piste de médicaments voilà. ou de prise en charge différente.
Et Annie Gomez. Pardon si je dis une grosse... C'est pas grave. C'est pas grave, les deux vont très bien. Catherine, moi j'avais... Enfin, dites-moi si je dis une énorme bêtise, mais je crois qu'il y a plus de femmes
ouais.
que d'hommes qui souffrent de douleurs chroniques.
Vous avez tout à fait raison.
Ouf !
Super ! Il y a plus d'hommes que, il y a plus de femmes que d'hommes. C'est, non, c'est dans les statistiques.
C'est hormonal,
on sait que
c'est...
Vous, Flavie, vous avez dit que c'était une personne sur trois. Mm. On sait que c'est... Il y a 39% dans les dernières statistiques en fait, de femmes pour 30% d'hommes. Et on sait aussi, évidemment, mais ça c'est un peu plus évident, que c'est majoré par l'âge et qu'à 80 ans et au-delà, 50% des personnes souffrent de douleurs chroniques.
Et c'est pour ça que... j'ai l'impression qu'une personne qui souffre de douleurs chroniques, et on voit à travers tous les témoignages que c'est du sérieux, est assez souvent prise pour une chochotte, pour une petite nature, alors que c'est pas du tout ça, les douleurs chroniques.
Non, alors je crois que quand même actuellement, les médecins, les chirurgiens, avec les plans de lutte contre la douleur, les choses ont beaucoup évolué. Après, il y a encore sûrement beaucoup à faire. Voilà, mais bon, je pense qu'il y a une perception qui commence... petit à petit, puis après c'est à changer et après évidemment c'est dépendant de l'entourage et des réactions de l'entourage.
On a Sfaudel justement qui nous écoute et qui tweete qu'elle va de doc en doc sans aucun résultat. On insinue l'hypochondrie, c'est toute la difficulté effectivement de ces douleurs chroniques que l'on ne peut pas forcément prouver, hein. On les ressent mais l'entourage ne peut pas forcément les comprendre et surtout qui entraîne un nomadisme médical, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné on ne sait plus à quelle porte frapper. Les centres antidouleurs sont là pour y répondre aussi, on voilà. peut dire à nos auditeurs.
Les centres antidouleurs, ils sont beaucoup développés hein, dans la mouvance de ce qu'on vient de dire. Il y en avait 96, je crois, en 2001 et actuellement, il y en a 245 en France. Donc, il y a eu quand même beaucoup de création et de développement de ces centres. Et bon, ces centres visent effectivement à permettre un diagnostic et puis après une prise en charge ou sur place ou avec des référents quand on vient de loin.
Alors, Cédric, on parlait des femmes qui souffrent, hein, mais Cédric est un homme, sauf preuve du contraire. Moi, ce sont des douleurs chroniques à l'intestin. Parfois, c'est supportable et d'autres fois, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Le traitement m'aide, mais ce n'est pas non plus efficace à 100%. Est-ce qu'il y a des réponses ? Parce qu'il y a moins de 50% des patients qui ont une douleur chronique qui reçoivent un traitement réellement qui les soulage. Donc, les 50% restants, ils sont condamnés à quoi ? À en baver ?
Ben, l'idée, c'est encore une fois, effectivement, dans un centre antidouleur, on peut essayer de comprendre en fait tous les éléments du problème et d'avoir une approche globale et un abord global du problème. Quand il est complexe, ça permet effectivement de voir tous les facteurs qui sont en jeu, situationnels, médicaux, les facteurs déclenchants, d'y voir donc plus clair, de clarifier la situation et donc d'avoir un traitement approprié. La plupart du temps, c'est un traitement plurimodal et...
ça veut dire que quand on rentre, pardonnez-moi, je vous interromps pour expliquer, mais quand on rentre dans un centre antidouleur, on va avoir affaire à un neurologue, on va avoir affaire à un psychiatre, on va avoir affaire, c'est ça ? On a une prise en charge pluridisciplinaire ?
En fonction du type de problème, on rencontre un médecin qui est un médecin coordonnateur ou un spécialiste.
D'accord.
Et à la suite de ça, ce médecin va en fait dire quel autre spécialiste est nécessaire. Et ça va être en fonction du problème qui est posé. Donc on va pouvoir avoir une, deux ou trois personnes. Et donc à partir de là, avoir une vision synthétique du problème de la personne. Et donc définir un programme thérapeutique à partir de là.
Cédric qui nous explique que parfois la douleur est supportable, ça veut dire qu'on arrive à soulager quelque peu, à modérer la douleur, et parfois c'est plus difficile à gérer, ça veut dire que les médecins, les médicaments, quand il y a un traitement, nous soulagent jusqu'à un certain point. Mais si on dépasse, c'est comme l'échelle de Richter, quoi, hein, c'est-à-dire c'est une échelle ouverte, quoi. Si on dépasse le seuil que les médicaments peuvent prendre en charge, on est condamné à trouver d'autres moyens. Alors, je ne sais pas si je suis très claire là dans ma phrase.
Si, tout à fait.
Merci Annie. Ouais.
Bon, donc effectivement, l'idée c'est d'avoir des stratégies thérapeutiques variées, sachant que le seuil en fait de perception, il est très personnel,
variable
et très subjectif.
D'accord. Oui. Voilà. Donc ce qui va mettre Annie KO, moi je vais pouvoir y résister, quoi.
Voilà.
Ou le contraire.
Ou le contraire.
Merci.
Allez, on se retrouve si vous le voulez bien. Tiens, il y a Valérie qui nous explique que depuis quelques années, lorsqu'elle est très fatiguée, elle a des douleurs à la poitrine qui surgissent, l'impression d'être dans un étau. C'est marrant ça, Valérie. Il y a d'autres gens qui vivent la même chose que vous et on va en parler dans un instant avec nos invités. À tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
On est fait pour s'entendre.
Flavie Flamand.
Des messages qui nous arrivent pour parler de la douleur. Alors évidemment, pour y répondre à cette douleur, Catherine Guillemont, et je pense que vous me rejoindrez, Annie Gomez, on a tendance à aller tout de suite chez le pharmacien, être dans l'automédication. C'est un peu votre spécialité, c'est pas terrible.
Oui, c'est pas terrible, je l'avoue.
Et donc du coup, on rentre dans la pharmacie et on a tendance à aller directement aux rayons antalgiques qui sont en vente libre. Alors, ça peut répondre à des douleurs qui sont des douleurs effectivement passagères, mais ça peut répondre aussi à des douleurs... Ça ne peut pas forcément répondre à des douleurs chroniques. C'est-à-dire que si au bout de 3 mois, les antalgiques ne font pas effet, il faut préciser à nos auditeurs que là, il faut absolument consulter.
Oui, je crois que c'est vraiment nécessaire. Et bon, et souvent, je dirais, c'est le réflexe parce qu'on en a assez, c'est pénible, c'est durable.
Et inquiétant.
Ça pollue la vie.
Et inquiétant
aussi.
Bien sûr.
Et que c'est un retentissement donc très important sur beaucoup de sphères de la vie quotidienne. Donc l'idée, c'est de consulter un spécialiste. Les centres antidouleurs, on y accède avec une lettre d'un spécialiste, je le dis pour info.
Oui, on ne va pas comme ça voilà, cogner à la porte.
Ou une lettre de son médecin attestant que voilà, ça fait un certain temps qu'on a des douleurs, donc 3 mois, et qu'on souhaite consulter.
Annie ?
Oui, moi je trouve que les centres antidouleurs, c'est quelque chose qui est quand même assez récent, parce que ça fait quoi, une petite 20 ans.
Oui, ça fait depuis les années 80, les premiers.
Voilà, et qu'il y a quand même une prise en charge aujourd'hui de la douleur, qui n'était pas le cas d'il y a... Donc,
à une époque, les gens souffraient.
Bien sûr.
Il n'y avait pas de.
Bien sûr.
La dernière fois qu'on vous a reçu, on parlait de la souffrance des enfants qui a été tardivement prise en compte, quand même, hein, il faut le dire. Donc, aujourd'hui, il y a quand même une prise en charge et une compréhension de la douleur par les professionnels qui font en sorte de pouvoir y répondre. Valérie nous a laissé un message où elle nous parle de tout à coup un sentiment d'étau, sa poitrine qui se compresse, des douleurs à la poitrine. J'ai fait des examens il y a longtemps, je n'ai rien au cœur. Peut-on considérer cela comme des douleurs chroniques?
Ça peut être.
On ne peut pas faire
après,
de diagnostic.
On ne peut pas faire de diagnostic comme ça à la radio, mais bon, ça peut être en fait des signes de palpitations cardiaques qu'on peut appeler, qu'on appelle souvent les attaques de panique. Mais voilà, c'est manifestation physiologique en fait de l'anxiété qui se traduit de cette manière-là.
Très bien. Donc ça veut dire que quand vous sentez, hein, Valérie, que ça ne va pas, peut-être qu'il faut bien respirer profondément. C'est vrai que ça fait parfois mal l'angoisse. Hein. On flippe tellement que tout à coup ça fait
un petit peu mal. Mais la respiration est un très bon remède.
Exactement. Voilà. Faire des grandes respirations. Et puis si vous avez fait les examens nécessaires et que vous n'avez rien au cœur, vous savez que c'est déjà un dossier à... Parce qu'en fait, l'angoisse de la douleur entraîne la douleur. Hein. Il faut le préciser aussi, la façon dont on l'aborde psychologiquement.
Quand on anticipe le retour de la douleur, déjà, ça favorise les manifestations d'anxiété.
Christelle qui nous explique que l'exercice physique peut soulager bon nombre de douleurs dites chroniques.
Oui, alors ça, c'est parfaitement juste. Et tous les médecins conseillent un exercice physique. On a souvent le réflexe de faire exactement le contraire, parce que quand on a mal, on se protège et on n'a pas envie, imagine que l'exercice physique va donc augmenter, accroître la douleur. Mais l'idée, c'est que l'activité physique, elle permet de ne pas diminuer la masse musculaire et elle a plein d'effets positifs sur les muscles, sur les nerfs. Aussi, elle produit des endorphines qui sont donc une façon de lutter contre l'anxiété.
Annie Schwab,
oui, et la dépression.
Juste peut-être préciser qu'il ne faut pas forcément se mettre au kickboxing ou au trampoline, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des disciplines sportives comme le tai chi, des choses qui sont plus douces et qui sont physiques et à la fois qui sont très relaxantes, donc on est peut-être s'orienté aussi vers des sports qui sont doux et efficaces.
Et qui sont adaptés à la pathologie qu'on présente, donc effectivement il va falloir voir en fonction de l'endroit où on a des douleurs. La natation est un très bon sport parce que ça détend aussi et que c'est souvent...
C'est pas violent.
C'est pas violent, voilà. Donc l'idée, c'est de trouver un sport qui est adapté en fonction des douleurs qu'on présente.
Voilà, alors là, je tiens encore à préciser à nos auditeurs que nous, on parle des douleurs chroniques qui ne trouvent pas réponse dans les médicaments. Hein. C'est-à-dire comment faire lorsque les douleurs persistent et qu'on n'arrive pas forcément à les soulager intégralement avec les médicaments.
Oui, dans les médicaments banaux, entre guillemets.
Je comprends. Voilà. Je voudrais qu'on revienne sur les différentes réponses que trouvent nos auditeurs. Alors, on nous parle d'acupuncture, on nous parle de sophrologie, on nous parle d'hypnose, on nous parle même de magnétiseur. Est-ce à dire que... Je vois vos yeux, Catherine Guillemont, mais c'est une réalité. Donc, est-ce à dire que à partir du moment où on trouve une réponse à notre douleur, quelque part... Est-ce que ça veut dire qu'elle est bonne?
Non, mais je pense que toutes ces techniques, bon, magnétiseur, bon, ça peut être efficace, mais c'est vrai que, bon, ce qu'on sait, hein, je crois, c'est que l'association d'un traitement médicamenteux et de stratégies pour accompagner ce traitement médicamenteux sont des stratégies salvatrices, des outils salvateurs, et que, effectivement, toutes ces techniques, l'hypnose, la sophrologie, bon, toutes ces techniques, elles sont différentes, mais elles sont assez proches et elles induisent des effets qui sont, dont les études ont montré qu'ils sont assez voisins. La méditation, toutes ces techniques sont des bonnes techniques et sont des techniques qui à la fois soulagent la douleur et aussi permettent une détente sur le plan émotionnel et permettent aussi d'être de nouveau en contact avec ces émotions parfois qu'on met de côté et de prendre conscience de ces émotions et dans ce sens-là et de donc mieux les gérer.
Oui, c'est-à-dire que je pense qu'il faut aussi préciser que les douleurs chroniques, a priori, c'est pas grave. Donc, pour qu'on estime que c'est pas grave, il faut déjà évacuer tout aspect pathologique, hein, parce que c'est super angoissant. Une fois qu'on sait que c'est pas grave, ok, on peut prendre des médicaments, aller faire de la natation, etc., etc., etc. Mais quand même s'assurer que c'est pas un problème de santé.
C'est-à-dire que Catherine Guillemont, c'est vrai, une question que j'aurais dû vous poser dès le départ et qui est importante, c'est que la douleur, enfin l'intensité de la douleur, ne renseigne pas sur la gravité de la situation.
Non, il n'y a pas du tout de relation vraiment évidente. On peut avoir un seuil de perception douloureux qui est très bas et avoir une douleur qui est pas très importante. Les douleurs ne présagent pas en fait de la perception douloureuse et du seuil du retentissement, de la façon dont on ressent la douleur.
Alors, pour bien apprivoiser cette douleur, ce qui est important aussi, c'est de savoir ce qui la favorise, la douleur. Hein. Donc on va en parler dans un instant, parce que comme ça on tient ça à l'écart. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Émission très intéressante, nous écrit Geneviève. Bah ça nous fait plaisir parce que c'est un petit peu l'objectif, figurez-vous, tous les jours entre 15h et 16h sur l'antenne d'RTL. On parle de la douleur. Alors c'est vrai qu'on n'a pas de réponse magique en fait, hein, Catherine Guillemont, quand il s'agit de calmer ou d'apprivoiser la douleur. Il y a la réponse des médicaments. Pour ça, il faut aller voir un neurologue lorsque nous avons des douleurs qui persistent malgré une sorte d'automédication au-delà de 3 mois. Maintenant, ce serait bien de revenir sur ce qui favorise cette douleur, pour savoir déjà de quoi il faut se méfier. Parce qu'il faut peut-être qu'on change un peu nos habitudes aussi, non ?
Alors, petite précision d'abord, en fait, c'est un neurologue, c'est pour les migraines, les céphalées, mais on peut voir aussi des médecins qui sont souvent anesthésistes, comme c'est le cas dans les centres antidouleurs, ou d'autres spécialités, parce qu'il y a aussi des rhumatologues, il y a aussi des médecins internistes et généralistes, internistes.
Qui peuvent répondre.
Qui peuvent répondre. Voilà.
Qu'est-ce qui favorise la douleur ?
Les facteurs déclenchants, il y en a beaucoup, mais ça peut être tout ce qui c'est à la fois le stress, on en a déjà parlé, ça peut être une surcharge de pression, ça peut être des événements de vie qui sont traumatiques, ça peut être des deuils, des séparations, des ruptures, ça peut être aussi des événements qui sont survenus dans l'enfance, qui ont laissé des traces. Des événements d'abandon, enfin, ou ressentis plutôt comme des abandons, ou par exemple aussi des personnes qui ont vécu sur le plan médical, tout un passé médical dont ils ont gardé le souvenir dans leur corps, la mémoire. Y a tout un. Ça peut être aussi des secrets familiaux qui peuvent interférer, qui peuvent avoir un impact. Bon, en tout cas, il y a beaucoup
d'éléments. Et Catherine, tout à l'heure, vous parliez de post-opératoire.
Oui, alors il y a évidemment toutes les événements des interventions, des traumatismes chirurgicaux ou post-accidentels aussi, de tous les accidents et des lésions qui peuvent être séquellaires en fait de ces accidents.
Mais ce que vous mettez en lumière là, c'est aussi le caractère psychologique de la douleur, c'est-à-dire qu'une douleur pas raconter ma vie, mais moi j'ai vécu des moments compliqués ces dernières années et mon corps parlait justement. Mmh. Et il a parlé au point qu'à une époque j'arrivais pas à mettre un pied devant l'autre, il m'arrivait de tomber sans savoir pourquoi. Donc le corps parfois aussi est un signal d'alarme à une douleur qui finalement est presque plus psychologique aussi, Catherine Guillemont.
Oui, donc ça c'est très important parce que la façon dont on décrit en fait ces douleurs est souvent l'illustration dans les images, les métaphores, le discours de la manière dont on évoque en fait sa douleur, c'est assez révélateur, illustratif en fait de ce qu'on ressent et donc de cette dimension psychologique.
L'expression j'en ai plein le dos, en général la personne se bloque le lendemain.
C'est important parce qu'effectivement c'est peut-être aussi quelque part une façon qu'a le corps de dire bon maintenant il va falloir s'attaquer sérieusement à ce problème-là, occupe-toi de toi, et en t'occupant de toi finalement ton corps va suivre. C'est là où effectivement il y a ce lien
entre le corps et l'esprit.
Et ces messages qu'il faut entendre. La résistance justement à toutes ces problématiques qui parfois sont des grosses problématiques psychologiques, elles favorisent le process de la douleur, c'est-à-dire de se dire je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre, je ne veux pas parler de tout ça. C'est une façon aussi d'entretenir finalement cet état physique.
Oui, alors on voit par exemple certaines fibromyalgies, parce que c'est une pathologie, une symptomatologie qui est plus féminine en grande majorité, des caractéristiques de comportement. C'est souvent des gens qui ont une très très grande volonté, qui sont très actifs et qui vont aller jusqu'au bout du bout. Donc ils vont épuiser leur corps. Lorsqu'on les prend en charge parfois, ils continuent à avoir du mal à s'arrêter. Dès que ça va mieux, ça recommence et ils ont toujours des projets importants et ils veulent arriver au bout de leurs projets et du coup ça fatigue le corps et voilà. Mais c'est vrai que c'est l'expression au niveau du corps.
L'idée étant de se distraire de la douleur, de ne pas être focus uniquement sur sa douleur, mais savoir trouver des sources comme ça de distraction ailleurs, mais peut-être de ne pas se distraire de ce qui est essentiel aussi pour notre équilibre. J'ai bien dit. C'est ça ?
C'est ça, oui. L'idée, c'est trouver des distractions, c'est très important. Donc, ça fait partie des stratégies, des outils thérapeutiques, se centrer sur des choses qu'on aime, des choses qui font plaisir. Parce que souvent, comme on est un peu dans le découragement, dans l'anxiété, dans les idées négatives, eh bien, on ne prend pas le temps de prendre soin de soi, de prendre des moments de bonheur. Mais ça, c'est très important de distiller dans la journée, au quotidien, des choses qui font plaisir pour justement lutter contre cette douleur qui est là.
Cet état un peu dépressif va de toute façon entraîner la douleur.
Parce que c'est comme une épée de Damoclès quand on a des douleurs chroniques. Voilà, le coup près, il peut tomber à tout moment. Donc on se dit, aujourd'hui non, aujourd'hui, demain peut-être, et après-demain, ça y est, bing. Donc je pense que c'est... j'ai la chance de ne pas avoir de douleurs chroniques, j'ai des douleurs, ça m'arrive, mais je pense que ça doit être quand même quelque chose dont il faut s'occuper.
Voilà, occupez-vous de vous, c'était aussi l'objet de cette émission, c'était le message qu'on voulait vous faire passer. On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien, sur l'antenne d'RTL.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Encore une petite minute pour vous livrer des conseils. Prendre soin de soi, Catherine Guillemont, ça c'est quelque chose d'essentiel. Essayer de pouvoir donc se distraire, vous le disiez il y a un instant, se tourner vers des choses qui font plaisir. Annie Schwamm.
Voilà, moi juste les remèdes d'Evelyne dans le magazine Maxi.
Oui, par rapport à la fibromyalgie.
Alors, elle a bu du jus de betterave, de carottes, de fenouil, de radis noirs mélangés à du curcuma et du gingembre. Voilà, donc voilà.
La pêche, ça.
Ça donne la pêche.
On est vigoureux après ça.
Voilà. Mais pas que, elle n'a pas fait que ça.
Très bien. En tout cas, c'est un témoignage que l'on peut retrouver donc dans le magazine Maxi, ce qui nous permet aussi de rebondir sur la vertu du témoignage, parce que lorsqu'une expérience est vécue et qu'on peut la partager, c'est l'objet de cette émission, évidemment, c'est l'occasion.
Bien sûr, des témoignages positifs où elle s'en est sortie, et donc c'est toujours, toujours sympa. Quoi.
La parole libérée, c'est quelque chose aussi qui est important de pouvoir
important. Moi,
partager.
Moi, je voudrais dire juste un petit témoignage. Il faut oser continuer d'espérer, se dire qu'on est comme tout le monde jusqu'au moment où on y arrive.
Voilà.
Et je crois qu'il faut creuser le tunnel vers l'air libre et que c'est possible.
Très bien, c'est possible. En tout cas, c'était donc le message que voulait vous livrer aujourd'hui Catherine Guillemont. Je vous rappelle que Catherine, elle parle bien de la douleur parce qu'elle s'y est vraiment penchée pendant plus de 20 ans au centre du traitement de la douleur à l'hôpital Bichat à Paris. Et puis, vous êtes auteur de cet ouvrage « Ma douleur, comment l'apprivoiser » avec Chantal Nollet-Clémenceau aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup Catherine Guillemont. À bientôt.
Merci, Flavie.
Sans douleur, oui, ça s'est bien passé. Annie Schwab, à la prochaine.
À la
Je
prochaine,
rappelle
Flavie.
Maxi, actuellement en kiosque, magazine qu'on aime beaucoup dans cette émission. Demain, sur l'antenne d'RTL, vous savez de quoi on va parler? Un sujet passionnant aussi. On parlera du parfum. Le parfum, c'est une véritable empreinte agréable ou indisposante. Le parfum influence-t-il la perception que nous avons de notre prochain?
Santé. Surtout dans le métro en ce moment ou dans le bus.
Oui. Bon, c'est sûr qu'avec ces grandes chaleurs, ça favorise évidemment les effluves. Et bon, on en parlera avec vous demain à 15h en direct sur RTL. Tout de suite, voici Laurent Ruquier et les grosses têtes. C'est vous dire si ça sent le rire à plein nez sur l'antenne d'RTL. Moi, je vous embrasse, prenez soin de vous et à demain.
Vous écoutez RTL.